alto es un mero cateo oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai fait des diplomaties au Cap-Sangage, en combinant les deux activités de président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de ce mois de mai. Le ministre de la Santé, Dr Félix Kabangé, a effectué une descente d'inspection sur le terrain à Kinshasa où il a fermé quelques officines pharmaceutiques et centres de santé non viables. Une opération qui vise à assainir les secteurs de la santé en RDC. On reproche à ces centres de travailler dans l'illégalité, d'employer des personnels de santé non formés, d'utiliser des matériels non adaptés et de prescrire des médicaments contrefaits. Comment jugez-vous cette action? 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Sylvain Matundu. Julie Feza est à la réalisation, Gilles Lungembo à la coordination et Pierrot et la Meiji vous la présentent sous la supervision de Léonard Moulamba, fidèle auditeur. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
L'assainissement du secteur des santé, du secteur pharmaceutique est une grande préoccupation pour plusieurs Congolais, voire des pharmacies qui opèrent et qui travaillent en respectant les normes qui vendent les médicaments de qualité, mais aussi l'extension dans les centres de santé, les structures de soins, le voir rendre service à la population d'une manière responsable. C'est aussi le souci de plusieurs personnes. Alors, comment juger l'action? Nous dégageons ensemble avec vous les pistes des soins. Et pour en parler, nous avons associé à ces débats Dr Félix Momat, conseiller principal du ministre de la Santé. Dr Momat, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous en bref, peut-être que beaucoup de gens ne sont pas informés de cette descente du ministre sur terrain. Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui a motivé? Un peu en bref.
En fait, M. Pierrot, ce que je dois dire, c'est que son excellence, M. le ministre de la Santé, lorsqu'il a été reconduit dans ses fonctions dans le gouvernement Matata 2, il s'est fixé quatre axes prioritaires. Mm-hmm. Et le premier axe prioritaire, c'est la couverture universelle de soins. Le deuxième axe prioritaire, c'est le renforcement du système de soins. Le troisième axe prioritaire, c'est la poursuite des réformes déjà entamées. Et enfin, c'est l'amélioration de la communication dans le secteur sanitaire. Ce sont là les quatre axes prioritaires.
Mmh.
Maintenant, pour revenir à votre question trouve sa réponse dans le deuxième axe prioritaire qui est le renforcement du système de soins. Alors là-dedans, vous avez la rationalisation des ressources humaines, vous avez la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires. Et vous avez enfin l'axe médicaments.
Mm-hmm.
Voilà. Et là, nous sommes dans l'axe médicaments.
Évidemment.
Et nous sommes en train de renforcer donc les structures de soins dans cet axe. Alors, quel est le constat fait sur terrain? Le constat fait sur terrain, c'est que d'une part, les circuits de distribution de médicaments n'est pas maîtrisé. D'autre part, il y a de faux médicaments qui circulent, pas seulement au pays, même en dehors de notre pays. D'autre part, enfin, il y a ce qu'on appelle le complément alimentaire que malheureusement la population congolaise et certains opérateurs économiques sont en train d'assimiler à des médicaments. Alors, compte tenu de tout ça, avec des officines qui ne sont pas ouvertes selon la réglementation en vigueur et les normes en République démocratique du Congo, il est apparu impérieux de descendre sur terrain. Et fermer ce qui a fermé, réglementer ce qui a réglementé.
Et qu'est-ce qui a été fait concrètement sur terrain, ici à Kinshasa, par exemple?
Ici à Kinshasa, nous avons procédé, sur l'excellence, monsieur le ministre de la Santé, à procéder à l'inspection de plusieurs officines. Certaines d'entre elles ont été carrément fermées. C'est un processus. Donc, en dehors de ça, il y a eu des actes qui ont été pris, notamment une note circulaire.
Mm-hmm.
adressée à tous les ministres provinciaux ayant la charge de la santé, ainsi qu'aux médecins inspecteurs provinciaux de la santé, aux médecins chefs des divisions provinciales de la santé, pour procéder à chacun dans son ressort à la fermeture de toutes ces officines qui ne répondent pas à la réglementation en vigueur.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une faille dans le travail de la direction qui s'occupe des médicaments au niveau du ministère de la Santé? Parce qu'il y a une structure qui gère au quotidien l'ouverture des pharmacies, le contrôle des qualités. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des failles dans le travail de cette structure?
Le ministère de la Santé publique est compartimenté en trois. Il y a le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau périphérique. Le niveau central, c'est le niveau pratiquement normatif. Alors, à ce niveau-là, vous avez à son excellence, monsieur le ministre, qui chapeaute. Et juste en bas, vous avez ce qu'on appelle le secrétariat général à la santé. Et le secrétariat général à la santé travaille avec 13 directions spécialisées et plusieurs programmes spécialisés. Alors, pour revenir à votre question, au niveau du ministère, il y a une direction, la troisième, qu'on appelle la DPEM. C'est la direction de la pharmacie et des médicaments.
Oui.
C'est donc à ce niveau-là où il y a toute la réglementation en matière de médicaments. Alors, hier, si vous avez suivi sous les médias, Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, a passé toute l'avant-midi à la direction de pharmacie et médicaments.
Mm-hmm.
C'était justement pour s'imprégner de ce qui est fait, les lois en matière de la réglementation de la circulation des médicaments en République démocratique du Congo sont respectées et bien appliquées par la direction ayant cette matière en charge. Bien entendu, sur place, Son Excellence, Monsieur le Ministre, a fait un constat et certaines orientations ont été données pour corriger ce qui est corrigé.
Alors, on peut dire aujourd'hui que cette question, c'est une question transversale, on peut le dire, parce qu'on voit souvent, quand les gens ouvrent des pharmacies, on voit le ministère de l'Environnement qui s'y mêle, on voit beaucoup de services qui passent quand même. Quand vous passez au Rwanda dans nos quartiers, vous voyez les gens qui ouvrent des pharmacies, il y a les gens du ministère de l'Environnement qui passent, il y a autant de services qui passent. Alors, comme c'est une question qui touche un peu à plusieurs secteurs, mais est-ce que les actions qui doivent être menées, il faut qu'ils soient quand même colossales, parce que ça va de la vie de personnes et la manière dont on voit les gens ouvrir les pharmacies et les médicaments sont vendus, on peut utiliser ces termes-là, comme ça chacun peut venir acheter le médicament. Alors, au niveau de la troisième direction, au niveau du ministère, alors, les actions concrètes, les normes, par exemple, les directives qui ont été prises au niveau du ministère consistent en quoi pour arriver vraiment à rendre ces travaux plus efficaces?
Ben voilà, il faut d'abord préciser ici, comme j'ai dit, Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, s'était fixé plusieurs priorités. Et pendant qu'il était en train d'exécuter ces priorités, il y a eu une question orale avec Debat sur justement la circulation de faux médicaments et le charlatanisme en République démocratique du Congo. Au décours de cette question orale, devant la représentation nationale, Son Excellence a fait sien les préoccupations des élus nationaux, de représentants de la population, et que donc c'est une action conjointe qui est en train d'être menée sur terrain. Maintenant, pour revenir à votre question, au niveau de la troisième direction, les lois existent. Il y a des lois qui existent depuis 1930, il y a des arrêtés qui sont pris, il y a des arrêtés qui ont été pris même tout récemment pour la réglementation du secteur. Ce qu'il faut reconnaître, c'est quoi? Lorsque un médicament entre en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché? Donc, la personne qui veut introduire son médicament en République démocratique du Congo, il présente un dossier à la direction de pharmacie et médicaments, donc la D3. Alors, ce dossier-là, il comporte le nom de médicament qu'on veut lancer en République démocratique du Congo. Lorsqu'il présente son dossier, il repasse encore pour retirer le formulaire. Il y a un formulaire que la personne doit remplir, et puis la direction le reprend, et la personne doit déposer les échantillons de médicaments qu'il veut faire circuler en République démocratique du Congo. Une fois ces échantillons déposés, ces échantillons sont envoyés dans des laboratoires homologués par le ministère. Il y en a 4. Alors, on envoie ces médicaments dans ces laboratoires-là pour tester de la fiabilité et de la qualité de ces médicaments. Alors, si à ce stade-là, les choses se passent bien, le rapport du laboratoire arrive, alors au niveau du ministère, au niveau de la DPM, donc la direction de pharmacie et médicaments, il y a une session qu'on appelle la session d'homologation de médicaments. Alors, cette session-là, c'est une grande session, un grand comité qui s'est réuni et qui passe en revue le dossier. Alors, première étape, si le dossier est bon, on donne ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché provisoire d'un mois, d'une année. Pendant cette année-là, la direction de pharmacie et médicaments contrôle le médicament, le comportement de ces médicaments sur le terrain. Après une année, on va procéder à la même étude que j'ai présentée en infra. Et après, si le dossier est excellent, on accorde ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché quinquennale de 5 ans. Donc voilà, un peu lorsque les choses doivent se passer correctement. Les étapes par lesquelles les gens, les opérateurs économiques dans les secteurs pharmaceutiques sont soumis.
Nous allons revenir à vous, docteur Félix Moma-Rigobert. Vous êtes à l'ICASI, Juma Academy, dans les Katanga, au Maritichia, Kinshasa. Le ministre de la Santé a effectué une descente sur terrain ici à Kinshasa pour le contrôle des officines pharmaceutiques. Quelques-unes ont été fermées, non viables, qui ne répondent pas aux normes et selon la loi en vigueur en termes de gestion des pharmacies. Et tout cela, nous voyons avec vous comment tout cela peut être rendu plus efficace dans votre milieu en ce qui concerne la circulation de médicaments. 081 890 515, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Rigobert, vous nous appelez d'Ikasi dans la province du Katanga. Bonjour Rigobert.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à tous les auditeurs de la fréquence de la paix Radio Kapi. Je salue d'abord l'intervention de votre invité en ce jour ou juste à ce débat. Et je salue également les initiatives de la radio Capi. C'est un sujet tellement très pertinent parce que, tel qu'ici chez nous au Katanga, je prends l'exemple de la ville d'Ikasi où moi je suis en train de vivre. Et la gestion de médicaments, c'est vraiment une catastrophe. Je peux appeler ça catastrophe. Pourquoi? Parce que nous voyons dans des pharmacies, il y a des gens qui ne sont pas initiés. Donc, il y a des gens qui ne sont pas des pharmaciens de formation. On prend peut-être un mécanicien, un ingénieur en électrotechnique qui se retrouve aujourd'hui pharmacien. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Nous voyons que le gouvernement congolais est en train de réveiller certaines choses, mais incapable d'en poursuivre parce que il a répondu dans la matière du droit. Il y a la souveraineté de l'État et la suprématie. Ça signifie que l'État et son pouvoir est au-dessus de tous les pouvoirs qui puissent exister. S'il y a, on constate quelque chose qui ne va pas bien, c'est l'État qui doit se réveiller pour la protection de toute la nation. Mais si l'État doit se mettre à parler tout simplement sans pour autant poursuivre cela de près, c'est une catastrophe. C'est pourquoi je dis que c'est pas tellement très pertinent. L'État doit se réveiller et fermer les pharmacies ne répondant pas aux normes internationales des gestions de médicaments. Merci beaucoup, c'est Rigobert.
Merci beaucoup, Rigobert. Vous êtes à l'ICASI. Vous estimez qu'il y a aujourd'hui des personnes non qualifiées qui tiennent des pharmacies dans votre milieu, mais vous souhaitez que quand il y a des initiatives, qu'il y ait la capacité de pouvoir les poursuivre, que l'État se réveille, quand ça ne répond pas aux normes, qu'on puisse fermer pour protéger la population. Merci beaucoup, Rigobert. Nous allons à Kalemie, dans le Katanga, toujours avec Djuma. Djuma, vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour. Dommage, on a perdu Djuma. Revenons ici à Kinshasa. Maître Omar, vous nous avez rejoint dans ces débats. Vous avez suivi l'initiative du ministre de la Santé descendre sur terrain pour fermer les officines pharmaceutiques qui ne répondent pas aux normes. Notre ami d'Ikasi estime, lui, que l'État doit vraiment prendre les responsabilités pour protéger la population. Quel est votre point de vue, Omar?
Merci beaucoup, Pierre Lamégie, déjà par vous, Mabidji. En congolais honnête, je tiens d'abord à saluer l'acte ou l'initiative du ministre de la Santé, parce que nul ne peut ignorer ce jour que le secteur sanitaire congolais est mis à prix par beaucoup d'ambivaleurs et il faut en parler. Alors je soutiens mon ami qui m'a parlé, il faut que l'État congolais protège. Et l'obligation de protéger la santé de la population n'est pas une volonté voulue par la population, mais elle est voulue d'abord par les textes juridiques qui existent. Je fais allusion à la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Je fais encore allusion au pacte international de 66, sans oublier notre constitution, qui en article 50 dit que le droit à la santé est garanti et l'État a l'obligation d'en assurer. s'il faut parler de l'émission d'aujourd'hui, il vous suffit de lire ces textes de M. Bureau, vous allez vous rendre compte que le droit à la santé suppose l'accès facile aux soins de santé de qualité. Et quand on parle de soins de santé de qualité, on voit d'un côté les contenus ou les médicaments qu'on doit donner et celui qui est censé fournir ces médicaments. Or, s'il faut aujourd'hui faire un bilan de l'état des lieux de l'usage pharmaceutique en RDC, je l'ai dit sans embâche ni à une clause que cet état des lieux paraît sombre et néfaste. Pourquoi est-ce que je l'ai dit, Bureau? Si vous parcourez la législation pharmaceutique qui régit notre pays, puisqu'on parle de médicaments, cette loi dit, dans chaque établissement pharmaceutique, on doit avoir un ventilateur, on doit avoir un congélateur, parce que certains médicaments exigent d'être conservés au frais. On doit également y posséder les médicaments. Vous êtes journaliste, faites un tour dans les quartiers un peu le plus reculé comme Makala, Lemba, vous allez voir, même dans presque tous les quartiers de Kinshasa, combien de pharmacies ont un ventilateur tel que prévoit la loi selon l'expertise médicale. Combien de pharmacies vendent dans les normes reconnues par la loi? Il n'y en a pas. Combien de pharmacies ont des congélateurs? Seulement quelques pharmacies de la ville qui en respectent. Autre chose, la même loi dit que celui qui vend le médicament est censé avoir une connaissance pharmaceutique, soit un pharmacien, soit un infirmier ou un médecin. Mais allez voir les gens qui vendent dans les pharmacies. Moi qui vous parle, quand j'étais étudiant, je faisais le droit, mais je vendais dans une pharmacie de mon grand frère. Avec tous les risques que la population peut avoir. Je n'ai jamais vu une agence de la santé venir contrôler qui vend. Est-ce que les médicaments, nous n'avions ni un ventilateur, ni un congélateur, mais à l'instant qu'on nous avait arrêtés. Voilà comment nous évoluons dans ce pays. Et enfin, on dit que on ne peut pas vendre des médicaments déjà expirés. Combien de fois avons-nous acheté des médicaments qui sont expirés? La même loi dit, je crois, il y a même une directive de l'OMS qui interdit un certain nombre de médicaments qui ne peuvent plus être consommés. J'exploite les cas d'artisanat. Mais allez dans nos pharmacies aujourd'hui, nous vivons ici à Kinshasa. Combien de pharmaciens ou de vendeurs dans les pharmacies ou de médecins continuent à respecter ces normes? Donc s'il faut scruter la réalité sur le terrain de l'eau, on nous rendre compte que la loi pharmaceutique existe. Tout ce qui est invité est dit est vrai, mais ce n'est que théorique parce que sur le terrain, les gens meurent faute de connaissances. On va finir avec ceux qui sont censés fournir les soins de santé. Parce que quand on parle de médicaments, il faut aussi voir son acteur. Est-ce que ces gens sont-ils bien formés? Y a-t-il un cours à l'université de la pharmacologie? Est-ce qu'ils maîtrisent pour telle maladie, pour tel médicament? Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est des tradis praticiens. Nous ne refusons pas. Les plantes médicinales ont aussi une vertu médicale. Mais est-ce que ces gens les font dans les normes reconnues par l'OMS ou par la santé publique congolaise? Qu'est-ce que l'État? Moi, je pense, pour finir, parce que je ne vais pas prendre l'émission en otage, il faut premièrement qu'il y ait un contrôle bureau. Un contrôle en amont et en aval. En amont, avant que quelqu'un ne puisse vendre dans une pharmacie, il faut qu'on soit sûr qu'il a une connaissance pharmaceutique. Et deux, avant que le médicament puisse entrer dans notre pays, il faut qu'on vérifie réellement si ça répond aux normes reconnues par le pays. Il ne faut pas nous dire ça à la radio, nous les vivons chaque jour. Et enfin, il faut que quelqu'un, avant de devenir quelqu'un, passe par un test. Et aussi, le point 2 ou ma deuxième solution, il faut, ministre de la Santé, ne pas se limiter à dire que j'ai fermé certaines pharmacies qui ne respectent pas certains centres hospitaliers. Il faut encore bien payer ces gens-là. Si un agent douanier est très mal payé, comment voulez-vous qu'il puisse arrêter celui qui fait entrer des faux médicaments? Vous lui payez 100 dollars par exemple. Un faux commerçant lui remet 1000 dollars. Il fait passer des faux médicaments. Il faut des fois traiter les problèmes à la base. Qu'est-ce que c'est là? C'est des fois des agents douaniers heureux, fausses d'un bon salaire. Ils se livrent à des cas de corruption. Et enfin, il faut qu'il y ait des inspecteurs hospitaliers, faire des tours dans chaque hôpital, dans chaque pharmacie, voir si ce que l'invité entre guillemets sur le plan théorique est respecté. Voilà, à mon avis, Pierrot, ce qu'on peut proposer pour embellir notre secteur longtemps d'après.
Merci beaucoup, Omar. Si j'ai bien suivi votre intervention, tout se résume dans l'application des normes et des textes, parce que les lois existent. Il faut maintenant les appliquer, il faut aller vraiment sur le terrain pour contrôler, pour faire appliquer la loi, mais aussi encadrer et améliorer les conditions de travail de ceux-là qui doivent faire les contrôles pour qu'ils ne puissent pas laisser ceux qui violent la loi travailler. C'est ça votre souci. Merci beaucoup, Omar. Vous nous avez appelé de Kinshasa. Bouchiri, vous nous appelez au Maniema. Vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour. Bouchiri, vous êtes avec nous? Oui, allez.
Je vous appelle à partir de la province du Maniema, précisément au territoire de Kibombo.
Ah, vous êtes à Kibombo, au Maniema. Alors, on vous écoute, Bouchiri.
Oui. J'aimerais d'abord féliciter la présence sur le terrain de M. Ministre de la Santé, le docteur Félix Chabagne Nouri. Et ce qu'il a fait vraiment, je suis trop joyeux. Et deuxièmement, j'aimerais juste vous donner une information juste de ce que nous nous sommes en train de voir ici chez nous, où nous sommes dans des territoires un peu périphériques, de la ville de Tingou. On a un peu de difficultés. Vous allez voir une personne qui a terminé ses études, je pense, à l'ITEM. Il est en train d'opérer les gens ici, l'hernie, l'appendicite, des cystes. Nous sommes en train de perdre nos personnes de nos familles pour rien. Vous allez voir une personne qui n'a pas étudié la pharmacologie, tellement il a de l'argent, il a des moyens, il fait quelque chose pour avoir de l'argent, il a beaucoup d'argent, mais il est en train de le vendre dans la pharmacie. Et il risque même d'autoriser les gens de faire l'automédication. Dans l'histoire, dans la médecine, il est interdit de faire l'automédication. Il est dans la pharmacie, vous venez par exemple, vous avez un problème de ta femme, elle est grosse, vous demandez à la pharmacie, donc au pharmacien, j'ai ma femme, elle est déjà grosse, quel médicament que je peux donner à la femme, elle est atteinte de la malaria. Il t'oblige de donner à la femme grosse les fancidars. En l'ouvrant dans la fancidaire, vous allez trouver un papier là-bas qu'on écrit, c'est interdit pendant la période de la grossesse ou bien pendant la période de l'allaitement de donner une femme dans les médicaments appelés fancidars. C'est un problème que nous sommes en train de voir ici chez nous, dans des territoires périphériques, mon frère.
Alors, c'est que vous avez posé deux problèmes, Bouchir. Il y a d'abord le problème de ceux qui ont l'art, ceux qui pratiquent l'art de soigner, qui ne sont pas qualifiés pour ça, ceux qui effectuent des opérations chirurgicales, qui ne sont pas qualifiés pour ça. Mais il y a aussi les dangers par rapport aux pharmacies, ceux-là qui tiennent des pharmacies, qui ne sont pas formés pour ça, et qui conseillent aux gens de prendre des médicaments. Alors, sans connaître les conséquences et les réactions, voilà. Tout se résume, n'est-ce pas, dans le contrôle, pour être plus sûr que ceux qui tiennent les pharmacies, ceux qui les ouvrent et qui vendent les médicaments, et répondent aux normes de ce que la loi dit, et ils sont qualifiés pour ça. Merci beaucoup, Bouchiri. Vous nous avez appelé de Kibombo, dans les territoires de Kibombo, hein, c'est dans la province de Maniema. Nous allons terminer cette première partie avec Michel, qui est à Matadi. On va revenir à notre invité pour placer un mot par rapport aux réactions de nos auditeurs. Michel, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, merci, journaliste.
On vous écoute, Michel.
Ah bon, voir aujourd'hui les ministres prendre une telle décision, mais je ne sais pas si ça a vraiment de l'impact, parce que je peux comprendre que c'est la raison d'être un ministère. Donc je pense que le ministre, lorsqu'il a été assidué, c'est par là qu'il devait commencer, c'est-à-dire assainir son ministère, particulièrement les centres médicaux et les corps médicaux. Donc voir aujourd'hui les ministres agir, moi je peux dire seulement que c'est de la propagande, mon frère. Ce ne sont pas des choses qu'on doit suivre. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui se passe dans notre pays dans ces domaines. Et les ministres devaient agir pendant tout ce temps qu'ils ont fait là. Et lorsque nous parlons par exemple des élections, nous disons quoi? Il faut commencer par la base. Et lorsqu'on nous voit la base, on voit les villages, les centres là. Mais tous ces mesures que nous sommes en train de prendre, nous les faisons d'actifs comme ça. Et dans ce que nous avons étudié, on nous dit, si nous voulons le développement, commençons par les rurales. Allons voir comment les centres de santé, comment les services médicaux sont organisés dans nos villages. Là, on devrait commencer. Moi, je crois que c'est toutes les choses que nous devons pas beaucoup suivre. Parce que c'est seulement une propagande que les ministres veulent nous emballer pour nous faire voir qu'il est en train de travailler. Non, moi je ne pense pas. Parce que lorsque vous faites là, ça doit avoir de l'impact. Et de deux, je crois, lorsque vous constatez, il y a la justice. Ceux qui font cela, il y a des gens qui vivent illégalement. Ils sont dans des centres, comme vous le dites là. Ils n'ont pas fait des institutions médicales, mais on les voit dans des pharmacies en télévente, on les voit faire même des opérations. Est-ce que ces gens, ils sont soumis à la justice? Mais lorsque nous voulons voir des telles actions, on va voir l'engouement que nous voulons voir les gens être transférés devant les parquets. C'est ça. Mais ne nous mettez pas dans des choses pour venir nous embrouiller. Vraiment, c'est tellement nécessaire. Ce sont des choses même que moi, je ne sais pas suivre. Le régime est en train de faire la propagande et ce que je suis en train de constater. On dirait que nos ministres prennent une décision sous les vins. Lorsqu'il a en face de lui une femme et du vin, il prend une décision. C'est pas comme ça qu'on prend des décisions. Lorsque vous prenez une décision.
Alors, Michel, je crois bien un tel jugement de valeur, c'est pas dans les buts des paroles aux auditeurs. Oui, mais je crois bien que vous connaissez bien la philosophie de l'émission. On ne peut pas arriver vraiment à déplacer de termes quand nous faisons un échange, un débat citoyen. Mais vous avez dit beaucoup de choses très très intéressantes depuis le début de votre intervention, Michel. On se respecte dans l'émission, on l'a toujours fait. Mais vous avez dit quelque chose d'important. Vous auriez souhaité que le ministre puisse commencer par l'assainissement du secteur quand il est entré en fonction, c'est ce que vous avez souhaité, plutôt que le prendre pendant cette période. Mais d'un côté, vous estimez aussi que ces genres de mesures ne devraient pas seulement être prises à Kinshasa, parce que ça a tendance à se limiter seulement à Kinshasa, et il faut aussi commencer à la base, mais sans tomber dans le piège de la propagande. C'est votre intervention, vous souhaitez. On aurait vu, on aurait aimé voir des personnes déférées devant la justice, ceux-là qui travaillent sans respecter les normes pouvaient être déférés devant la justice. Et c'est ça ce qui pouvait vous convaincre, n'est-ce pas? C'est ça votre souci, c'est de voir, voir comment cela pouvait être convaincant pour la population. Les restes des termes des jugements, je crois bien, nous avons toujours tendance à faire l'amende honorable dans cette émission, Michel, pour permettre à ce que l'échange puisse nous aider à évoluer. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Dieu merci, Georges, vous gardez la ligne. On va revenir à vous le temps que notre invité puisse réagir.
Parole aux auditeurs.
Docteur Félix Momat, vous êtes conseiller principal du ministre de la Santé. Vous avez suivi nos auditeurs. Si on peut regrouper tous leurs points de vue, cela revient au fait que les gens voudraient voir ce qui est dit dans les textes vraiment appliqué. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que les gens ont soulevés. Les gens voudraient voir vraiment qu'on descend sur le terrain, on contrôle, on ferme. Michel a même souhaité qu'on puisse déférer devant la justice tous ceux-là qui travaillent en dehors de la loi. Quelle est votre réaction par rapport à ce que les auditeurs venaient de dire?
Merci beaucoup, Pierrot. Je remercie Rigobert qui nous a appelé de l'ICACI, Maître Omar de Kinshasa, Bouchiri du Maniema et Michel du Bas-Congo. Je vais essayer de regrouper les différentes interventions en ceci. D'abord, Pierrot, la santé n'est pas l'affaire du ministre seulement. C'est l'affaire de tout le monde. Chacun de nous a un rôle à jouer pour protéger le secteur sanitaire en République démocratique du Congo. La population peut le faire par la dénonciation. Lorsque la population dénonce et lorsque l'autorité compétente au niveau sectoriel est informée, l'autorité doit prendre des mesures. Et si cette autorité ne prend pas des mesures, la population doit fournir tous les efforts possibles pour faire parvenir l'information à qui de droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je le dis d'entrée de jeu, que le ministre, quand il a pris ses fonctions, il s'est fixé des axes prioritaires que j'ai rappelés ici. J'aimerais revenir sur la question de l'assainissement du secteur. Parce que ce soit Michel, que ce soit Rigobert, que ce soit Maître Omar, même Bouchir au Maniema, tout le monde est revenu sur l'assainissement du secteur. Dans le secteur sanitaire, il y a deux axes. Il y a l'axe soins, donc prise en charge, et il y a l'axe strictement médicaments. Dans l'axe strictement médicaments, le ministre, et là je réponds tout de suite à Michel, que le ministre n'a pas commencé ses actions en 2015. Le ministre a fermé le premier officine en 2013, vous rappelez?
On a même fait une émission au jour de ça.
Ouais. Donc Michel n'est peut-être pas informé. Le ministre a fermé. Hier, nous étions sur le terrain avec le ministre, où il est allé inspecter une firme pharmaceutique fermée en 2013. Cette firme est restée fermée pendant 2 ans. Cette firme a pris en compte les orientations du ministre. Je ne veux pas citer le nom de la firme pour ne pas tomber dans la publicité. Et hier, le ministre est parti. Il a remarqué qu'il y avait des avancées significatives sur terrain. Et le ministre a promis la réouverture parce qu'il faut éviter d'être seulement un ministre qui fouette. Mais il faut aussi, quand ça va, quand ça marche, il faut encourager les actions économiques. Donc, j'aimerais dire à Michel que ces actions ont commencé en 2013. Le ministre n'a pris ses fonctions qu'en 2012, donc déjà 6 mois. Après la prise des fonctions, il était dans ses actions de terrain. Donc là, nous sommes dans la production de médicaments. Toujours dans l'assainissement, là, Pierrot, il y a ce qu'on appelle
les contrôles et les circuits de distribution de médicaments. Qu'est-ce que le ministère fait à ce stade? En ce qui concerne les circuits de distribution de médicaments, le ministère de la Santé est en train de mettre sur pied ce qu'on appelle la technique d'estampillonnage. Ça signifie que chaque médicament qui entre au Congo doit être étiqueté. Lorsque ce produit est étiqueté, même avec votre téléphone, il suffit de braquer l'étiquette. On va expliquer comment ça s'est fait. Vous savez avoir sur votre téléphone toutes les informations essentielles sur le médicament. Le lieu de sa production, le cheminement que le médicament a pris avant d'arriver en République démocratique du Congo, le point d'entrée en République démocratique du Congo, si c'est l'aéroport, si c'est le port, quel est le cheminement que le produit a suivi avant d'être distribué à la population. Et à partir de ça, la population peut dénoncer les faux médicaments. Ça va entrer en vigueur d'ici là parce que les préliminaires sont suffisamment avancés et même terminés. En ce qui concerne la distribution des médicaments sur l'étendue de la République démocratique du Congo, là je vais répondre à Bouchiri, je vais aussi répondre à Michel. Michel nous a rappelé tout à l'heure que le contrôle commence à la base. Effectivement, Michel a raison. La République démocratique du Congo, Pierrot, compte 423 hôpitaux généraux de référence et à peu près 8000 centres de santé. Le gouvernement de la République a depuis un certain temps pris la politique de distribuer des médicaments. Vous savez, vous et moi, que la pharmacie, c'est une composante de l'hôpital. Donc, lorsque l'hôpital a en son sein une pharmacie, la personne qui est censée tenir cette pharmacie, c'est un pharmacien. Donc, le gouvernement distribue, le gouvernement ne distribue pas à ces 8000 centres, mais le gouvernement distribue à plus de 1000 centres sous l'étendue de la RDC de médicaments. Dans les différentes provinces, il existe ce qu'on appelle les CDR. Les CDR sont des centres de distribution régionale de médicaments. Ça, c'est d'une part. D'autre part, comme notre pays a des dimensions continentales et qu'on ne sait pas atteindre tous les territoires, nous profitons des vacances parlementaires des élus nationaux, ils sont 500, et les 500 couvrent tous les territoires de la République démocratique du Congo. Nous leur donnons un lot de médicaments, et eux, à leur tour, ils sont censés aller remettre ces lots à qui de droit dans les territoires.
Mais là, on ne va pas tomber dans les pièges de la propagande. Non, on va souvent les députés débarquer avec des cartons. On dit, voilà, l'honorable est parti, il nous a ramené les médicaments. Il y a un piège avec ça aussi.
Non, c'est pas de la propagande. Je vais revenir à la propagande. Plutôt, ces actions devraient être louées. Figurez-vous si le gouvernement doit déployer des moyens pour les 8000 centres de santé. Ça fait combien? C'est pas de l'argent pour acheter les médicaments. C'est de l'argent pour acheter les médicaments. Et à moins que vous avez une occasion pour acheminer ces médicaments sans que vous ne dépensez trop en termes de transport, il faut profiter de ça. Et cette initiative devrait par contre être louée. J'en viens à l'assainissement parce que j'en étais là. Je rappelle à Michel que notre pays, la RDC, compte à ces jours au total 23 industries locales de production de médicaments. Et les 23 industries locales, parmi les 23 industries locales de production de médicaments, seules deux sont congolaises. Donc, 21 ne sont
deux
pas.
Seulement.
Deux seulement. 21 ne sont pas congolaises. Vous comprenez déjà qu'il y a un problème à ce niveau-là. Alors que le climat d'affaires est suffisamment assainé en République démocratique du Congo. Alors, je rappelle aussi à nos auditeurs qui sont intervenus qu'en 2010, le ministre de la Santé publique a pris l'arrêté portant interdiction d'importation de 21 médicaments. Cet arrêté a été pris ici. C'est Rigobert ou Maître Omar, je ne sais pas lequel, entre les deux, qui a parlé de l'OMS qui interdisait la circulation des médicaments.
Oui, il y a même Omar qui a même cité le nom d'un médicament. Il a voulu parler de l'arrêté.
Je confirme ce qu'Omar a dit et je précise à Maître Omar que le gouvernement de la République démocratique du Congo, au travers son Excellence Nationale de la Santé, a pris en 2010 un arrêté, et cet arrêté court encore aujourd'hui, portant interdiction de 21 médicaments. Par rapport au charlatanisme, j'attends par charlatanisme tous ces ingénieurs, tous ces juristes, toutes ces personnes qui vendent des médicaments dans les officines pharmaceutiques tout en n'ayant pas qualité. Ce sont des infractions. Une fois que c'est dénoncé, c'est déjà un élément pour la fermeture de la pharmacie. Ne peut vendre dans une pharmacie qu'un pharmacien, ne peut tenir une pharmacie qu'un pharmacien, et le médicament ne peut être délivré que sur base d'une ordonnance.
les importateurs économiques qui ont des autorisations de vente en gros ne peuvent pas distribuer des médicaments en détail. Si vous avez des éléments là-dessus, ça constitue suffisamment des infractions. Et là, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui peut s'en saisir. L'autorité locale, déjà, le chef du territoire, peut se saisir de ces cas-là. C'est comme ça que je dis, la santé, c'est un problème.
En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une question transversale. Quand, par exemple, le magistrat passe et il se retrouve dans son quartier, le magistrat est à la recherche des infractions. Voilà. Quand le magistrat découvre qu'ici, il y a une pharmacie qui ne répond pas aux normes, en dessous des normes, on vend des médicaments, il se saisit automatiquement du dossier. C'est ça aussi le rôle du procureur, c'est ça le rôle de magistrat. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est une question transversale. La police, elle doit être mise en contribution aujourd'hui pour ne pas dire que c'est seulement le ministère de la Santé qui doit faire le travail.
Pour la ville de Kinshasa, par exemple, pour revenir à Maître Omer, vous savez que la ville de Kinshasa compte à peu près 6000 pharmacies. Mais parmi les 6000 pharmacies, seules 1750 sont identifiées comme étant viables. Cela signifie qu'il y a 4250 pharmacies qui ne sont pas viables.
Mais qui continue à la population.
Voilà pourquoi son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, est en train d'assainir. Mais doit l'assainir avec le concours de qui? Le concours des autorités provinciales aussi. La santé est décentralisée. Si le ministre doit être chaque jour sur terrain pour aller fermer, assainir les secteurs sanitaires, quand est-ce qu'il va s'occuper des autres dossiers?
Parce qu'en fait, c'est ça le rôle des ministres provinciaux,
des médecins, de la santé. C'est le rôle finalement de tout le monde. Et je vous rejoins lorsque vous dites que la question devient finalement transversale. C'est en fait ça. Mais dire que Son Excellence, Monsieur le Ministre, descend sur terrain à des buts propagandistes, non, là, je crois que. On peut pas.
Oui, la peur, pour donner la parole aux auditeurs, la peur, c'est ce que moi je disais tout à l'heure, c'est quand le gouvernement remet, par exemple, aux députés nationaux les médicaments pour faciliter l'acheminement, il serait mieux que les députés, quand ils arrivent dans leur circonscription, qu'ils disent voilà, moi je suis venu de Kinshasa, c'est l'autre des médicaments que je vous amène, c'est le gouvernement qui l'envoie, pour ne pas tomber dans cette propagande où on se couvre du gouvernement pour dire voilà, les députés amènent les médicaments à sa base.
Nous sommes dans la collaboration interinstitutionnelle. Les députés, ils le disent. Il ne faudrait pas qu'on leur accorde un procès d'intention, encore qu'on n'est pas dans la campagne électorale.
Merci beaucoup, nous allons revenir à vous. Dieu merci, vous nous appelez des Manono dans la province du Katanga. Bonjour. Dieu merci, bonjour.
Bonjour Pierrot. Bonjour à tous les amis de la radio Capri.
Voilà, diminuez le volume de votre poste récepteur, ou soit désactiver le mode mais libre. Hein. Je crois que c'est ce qui s'inspire toujours sur les antennes. Comme ça, vous pouvez y intervenir par rapport à l'assainissement de ces secteurs pharmaceutiques, les initiatives au niveau du ministère de la Santé. On vous écoute, Dieu merci.
Merci beaucoup, Pierrot, de m'accorder la parole. Moi, je vais parler sur trois points, le respect des textes, les besoins de ressources humaines et l'organisation du service dans le secteur de la santé. Pierrot, vraiment, c'est un bon sujet pour la journée d'aujourd'hui, parce que ça intéresse même ceux qui vous suivent pour le moment à Manono. Pour le respect des textes, dans notre pays, il y a un problème, Pierrot. Chaque fois, quand il y a vraiment un thème sur le projet de l'hôpital, on ne cesse pas de le dire. Notre pays a un problème du respect des textes et de l'application des textes. Si vous essayez de voir, Pierrot, il y a beaucoup de... J'ai suivi notre invité de le début de l'émission. Il nous a parlé des quatre axes. Il y a deux axes qui m'ont plus intéressé. L'universalité des soins et le renforcement des soins. Je vais plus parler sur le renforcement de Saint-Pierrot. Le territoire de Manono, où je me trouve pour le moment, compte au moins trois zones de santé. Et chaque zone de santé a au moins 20 plus de centres de santé. Comme Manono, c'est 27, Kiam, c'est au moins 25, et Kiam, c'est 24, Ankoro, c'est 25. Mais si vous essayez de voir parmi toutes ces trois zones de santé, il n'y a que trois infirmiers qui touchent l'argent de l'État. Maintenant, comment on peut renforcer les soins dans ce territoire? Et ça, c'est le premier problème. Il y a aussi le problème de la distribution. Et c'est pourquoi j'ai parlé de besoins en ressources humaines, distribution de médicaments. On voit les inscriptions partout au niveau du marché là-bas, pharmacie telle. Ben ici, c'est rare de trouver, pas même dans une seule pharmacie, où on peut trouver celui qui a Dieu même AD au niveau de l'item. C'est toujours les enfants, et parfois, ça fait passer beaucoup de morts, parce que ceux qui vendent le médicament ne connaissent même pas ce billet, ont même les difficultés pour lire les ordonnances, parfois que les médecins donnent. Il y a aussi le problème de l'organisation des services. Pierrot, c'est très dur dans cette situation, si je peux vous dire.
Il arrive des fois vous trouver quelqu'un qui doit faire 120 km ou 100 km pour atteindre Mulongo afin de se faire opérer. Parce qu'il y a un problème, il n'y a pas un chirurgien, il n'y a pas. Tout ça, ce sont des problèmes. Il n'y a pas longtemps, il y a les journalistes de la radio Capi Polin qui a donné l'information. Il est un Kumbulu. Il a trouvé un centre de santé là où il n'y a même pas un lit. Un centre de santé qui compte 7 agents. Aucun agent n'est payé dans ce centre de santé. Voilà pourquoi nous saluons les axes que le ministre s'est proposé, mais nous demandons à ce que le gouvernement puisse l'aider juste pour réussir à tout cela. Parce que nous constatons bien que, je vous dis, nous constatons qu'il y a une baisse des qualités professionnelles dans le secteur de la santé. Là, vraiment, c'est constaté de tout le monde. Voilà ma conception.
Merci beaucoup, Dieu merci pour tous les éléments, hein, avec beaucoup de précisions, le nombre des zones de santé, des centres de santé, ces trois infirmiers qui sont payés par l'État. Alors, vous avez défini votre inquiétude par rapport au respect des textes, besoin en ressources humaines, c'est très sérieux, parce qu'il n'y a pas des gens qui sont formés, on ne les trouvera pas dans des pharmacies, et puis l'organisation de services. Notre invité pourra placer un mot par rapport à ça, mais vous avez souhaité que les gouvernements, dans la globalité, puissent accompagner les initiatives du ministre de la Santé. Merci beaucoup. Georges, vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour, Georges. Georges, vous êtes avec nous, bonjour. Et là, on a des petits soucis de ligne avec Georges qui est à Kindu. On pourra voir si la qualité peut s'améliorer. En attendant, on retourne ici à Kinshasa. Docteur Richard, merci de nous avoir rejoint dans ces débats. Vous êtes avec nous, on vous écoute, Docteur Richard.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour aussi à l'invité, mon confrère, conseiller, son excellence, monsieur le ministre. Je voudrais d'abord féliciter le ministre de la Santé publique parce que c'est vraiment un homme de terrain. Il descend, il prend même les risques pour être humilié comme on avait fait contre lui à l'hôpital de Saint-Quentin. Vraiment, je lui jette des fleurs. Alors, maintenant, je voudrais parler à ceux qui parlent de la qualité des soins comme homme de terrain. Le Congolais croit que la qualité des soins est améliorée lorsque on lui fait la radiographie. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Ah, on m'a pas fait la radiographie. Alors que la qualité des soins, c'est la conséquence du diagnostic posé. Qu'est-ce qu'on a fait comme programme pour ta maladie? J'ai vu aussi des gens croire que la qualité des soins, c'est beaucoup de médicaments. Et à ce sujet, je connais un cas malheureux d'une femme qui n'est plus. Elle était ma patiente. Quand elle venait à la consultation, elle avait un ou deux produits et passait. Mais dans les oreilles des gens, elle a dit, elle va changer de médecin parce que je lui prescris peu de médicaments. Quand elle a changé de médecin, elle est allée dans un autre hôpital, elle a pris le discours d'un malade. Hein, c'est lui qui sortait en consultation avec beaucoup de médicaments. Il a pris ce discours-là. Il a amené son nouveau médecin dans une autre formation médicale. Et là-bas, on lui a prescrit beaucoup de médicaments. Et il a cru qu'elle était dans les soins de qualité et elle est morte d'empoisonnement. Parce que elle a pris ce qui ne correspondait pas à son problème. Elle a menti. Elle a pris ce qu'on appelle le discours d'un autre malade. Et la mise de son médecin. Donc, la qualité de soins, la population doit savoir, commence par ce que toi-même tu as dit. Qu'est-ce qu'on a posé comme diagnostic et quel est le cheminement du traitement? Qu'est-ce qu'on t'a dit dans ton traitement? On a vu des gens prendre, ça c'est un ami qui n'est plus. Je lui ai dit, quand tu es malade, ne prends pas tes médicaments avec les boissons dites sucrées, parce que ce sont des molécules chimiques que d'autres nous connaissons pas la formule. Elle prenait son produit avec sa boisson préférée. Il n'est plus. Donc la qualité des soins, c'est aussi le conseil qu'on vous donne là. Ce n'est pas seulement un produit qui vient de Suisse, qui vient de Hollande, etc. Mais le produit fabriqué au Congo, pris à bon escient, et surtout pris avec de l'eau. Merci.
Merci beaucoup, docteur. Vous êtes resté sur la qualité des soins parce que beaucoup de gens sont revenus là-dessus et vous avez insisté sur le comportement de nous-mêmes, le malade, quand nous allons dans les hôpitaux. La qualité des soins commence par ce que nous-mêmes nous voulons et que nous qu'on puisse faire pour nous et ce que nous disons au médecin. On revient à vous, docteur Félix Momat. Vous avez suivi docteur Richard qui est revenu par rapport à la qualité des soins. Mais notre ami du Merci de Manon aussi a amené une dimension avec beaucoup d'éléments sur terrain. Alors, mais en ce qui concerne le renforcement des soins, parce que c'est une priorité aussi.
Mais est-ce qu'il y a, au-delà du fait qu'on peut fermer parce qu'il n'y a pas les personnels, y a-t-il des actions au niveau du ministère pour le renforcement des capacités, que ce soit pour ceux qui tiennent les officines pharmaceutiques aussi, parce qu'on ne peut pas seulement fermer, mais il faut aussi d'un côté encadrer pour accompagner.
Merci Pierrot, je remercie et je salue Dr Richard, je remercie Dieu merci. Alors, vous avez ajouté une troisième question, les auditeurs qui sont intervenus tout à l'heure ont donné deux pistes. Docteur Richard a parlé de la qualité de soins, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Dieu merci a parlé des ressources humaines et de la couverture universelle de soins. Alors, lorsque je vais aborder la question sur la couverture universelle de soins, je vais aussi aborder votre intervention.
Mm-hmm.
Venons-en d'abord à la rationalisation des ressources humaines. C'est un axe prioritaire que son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, s'est fixé. Alors, qu'est-ce que nous faisons à ces niveaux-là? Quel est le programme du ministère à ces niveaux-là? Premièrement, on l'a fait. Aujourd'hui, nous avons les effectifs, le recensement de tout le personnel qualifié qui exerce au niveau du ministère de la Santé publique. Donc, ces fichiers sont tenus aussi bien au niveau local, provincial que national. Là, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est la répartition de ce personnel sur l'étendue de la République. Puis, au bout de moi, vous savez, la plupart de nos compatriotes aiment travailler dans les grandes villes.
Mm-hmm.
Donc, au niveau de la médecine, jusque-là, on n'a pas une politique de coercition pour imposer l'affectation d'un personnel dans les milieux ruraux. Alors, lorsque vous affectez les personnels médicaux dans les milieux ruraux, ils font 6 mois, tout de suite après, ils tombent tous curieusement malades et ils reviennent dans les milieux urbains. C'est ça, au fait, l'insuffisance du personnel en termes de nombre dans les milieux ruraux. C'est le fait que les personnels formés ont tendance à fuir les milieux ruraux pour aller s'agglomérer dans les milieux urbains. Le problème de paiement, c'est vrai, je consens, tout ce qui a été dit n'est pas faux, mais le gouvernement est en train de fournir les efforts maximum, un, pour aligner ceux qui ne sont pas payés, deux, pour améliorer les salaires ou les primes qui sont déjà payées aujourd'hui. Mais le grand problème aussi, c'est la transmission de l'information. Dieu merci qui est à Manono, le médecin chef de division du Tanganyika, parce que Manono doit et Manon est dans le Tanganyika, ce médecin chef de division provinciale doit avoir le fichier de tous ces personnels qui travaillent depuis des années et qui n'est pas payé. Et le médecin chef de division doit transmettre ces fichiers au niveau national. Parfois, les gens ne sont pas payés, pas parce que le gouvernement ne veut pas le payer, mais parce que le gouvernement n'a pas l'information que tel travail et tel n'est pas payé. Je reviens à la couverture universelle de soins qui est un axe prioritaire pour son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé. En fait, en un mot, cette couverture universelle de soins, c'est quoi? C'est, en fait, un accès à faible coût aux soins de santé de qualité. Alors, nous pouvons catégoriser le personnel congolais en trois parties.
Mm-hmm.
Ceux qui travaillent dans le secteur public, ceux qui travaillent dans le secteur privé, ceux qui travaillent dans le secteur informel et les indigents. Ceux qui travaillent dans le secteur public, la politique du gouvernement, c'est de prélever un tiré. C'est comme ça que la loi sera votée mensuellement, pour que chaque fois quand vous tombez malade, vous avez soit une assurance, soit alors vous êtes abonné à une mutuelle, on sait vous prendre totalement en charge.
En charge, oui.
Alors, ceux qui travaillent dans les secteurs privés, ça ce n'est pas le domaine de l'État, mais ceux qui travaillent dans les secteurs informels, il y a moyen de les organiser. Je prends l'exemple, les mamans qui travaillent au marché. Ces mamans-là payent des taxes, mais il y a moyen d'ajouter un centime sur ces taxes-là et de dire que c'est ces mamans qui paient chaque fois un centime de plus sur leurs taxes.
Mm-hmm.
Chaque fois qu'elles tombent malades, elles ont une carte d'assurance et elles ont une structure où elles sont orientées. Mais les indigents, nous avons un ministère des Affaires sociales et actions humanitaires. Les indigents doivent être pris en charge par le gouvernement. Pour répondre à votre question, le programme PES, le programme d'équipement des structures sanitaires que le gouvernement a lancé, il vise justement ce que vous avez dit, donner les appareils de qualité dans les hôpitaux, reconstruire les hôpitaux et construire les autres. Donc le gouvernement fait déjà une politique là-dessus et aujourd'hui, plusieurs centres de santé ont été construits. Pierrot, j'aimerais terminer par...
rapidement, pour qu'on les deux derniers
auditeurs, mais j'aimerais parler quand même des compléments alimentaires. Le ministre est passé et vous avez vu qu'il a fermé plusieurs officines pharmaceutiques qui vendent des compléments alimentaires. Pas parce qu'on refuse la vente des compléments alimentaires, mais parce qu'on véhicule une information selon laquelle les compléments alimentaires, ce sont des médicaments.
Mm-hmm.
Moi, je donne un exemple. Je souffre de la vitamine A. Mais la vitamine A, je peux la retrouver dans la tomate, je peux la retrouver dans la carotte. Mais ce n'est pas parce que j'ai pris la tomate, que j'ai pris la carotte, que j'ai réglé mon problème de la vitamine A. La vitamine A doit être traitée par un médicament, un supplément en vitamine A. Alors, comme les auditeurs doivent intervenir, je préfère revenir.
Voilà, on va revenir rapidement pour conclure. On va écouter Jean-Paul, vous êtes à Kinshasa, au Congo central. En une minute, Jean-Paul, votre point de vue par rapport à ces débats. Jean-Paul, vous êtes avec nous, on vous écoute.
Oui, bonjour Pérou, et bonjour aussi à votre invité.
Mmh. Allez-y rapidement.
En fait, de ma part, je tiens quand même à remercier le courage du ministre. Et nous sommes en train de voir ses œuvres à travers la télévision, les informations que nous suivons. Donc, vraiment, nous l'encourageons quand même.
Mmh.
Mais il y a un phénomène qui se passe ici, monsieur Pérou. Donc, j'ai interrogé deux personnes qui ont subi des interventions. Et ils m'ont dit qu'ils sont en repos médical. Mais malheureusement, lorsque j'ai voulu pénétrer l'information, ils m'ont dit qu'ils ont été opérés dans des églises. Sont des opérations, des interventions qui se déroulent au sein des églises. Je ne vais pas citer les noms de l'église, mais en tout cas, j'ai croisé deux personnes. Et je veux que l'État soit beaucoup plus regardant dans ce genre de interventions. Oui, on appelle ça intervention spirituelle. L'autre, j'ai interrogé une femme qui m'a dit qu'elle a été opérée de myome. Et le monsieur que j'avais rencontré, hernie. Et tout cela se passe d'une façon, je ne sais pas, occulte, démoniaque, ou quel type d'opération. Afin qu'il faut que l'État regarde vraiment. Mmh.
Mais alors, c'est ce que notre invité disait tout à l'heure, Jean-Paul, quand vous avez une telle information, c'est quand même inquiétant quand quelqu'un vous dit j'ai été opéré des myomes spirituellement. Dans mon église, maintenant, je suis en convalescence. C'est comme des questions qu'il faut se poser sur le pratique. Hein, entre les quatre murs, on ne sait pas ce qui se passe au sein des confessions religieuses. Mais merci beaucoup pour ces témoignages. On va terminer rapidement avec vous, Clémentine. Vous êtes en Boujimaï. En une minute, pour permettre à notre invité de conclure, on vous écoute, Clémentine. Allô, Clémentine, vous êtes avec nous? Allô, Clémentine, vous êtes en Boujimaï. Bonjour. Dommage que Clémentine n'est pas prête. On revient à notre invité, docteur Félix Momba. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, en deux minutes, quelle note d'espoir les auditeurs peuvent-ils garder à l'issue de cette émission et de ces initiatives qu'elles vont continuer jusqu'en province partout et que cela porte le fruit pour la protection de la population?
La note d'espoir, c'est que la santé, c'est aussi la participation communautaire. Donc la communauté doit participer et doit accompagner le gouvernement au travers son excellence Monsieur le ministre de la Santé dans les différentes initiatives et les différentes mesures que le ministre est en train de prendre pour assainir les secteurs sanitaires. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne le complément alimentaire, je voudrais profiter de cette tribune pour informer la population que les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Deuxièmement, il y a la prolifération de machines avec faible magnétisme, qu'on appelle faussement scanner. La population est en train d'aller dans des kiosques par-ci par-là. Elle se fait examiner. Après, on sort un faux diagnostic et on donne à cette population des compléments alimentaires qu'on confond avec des médicaments. Alors, ces fameux scanners-là, c'est du charlatanisme pur et simple. En fait, c'est une méthode utilisée pour écouler les compléments alimentaires. La population doit savoir que c'est du faux et du archi-faux.
On vous fait passer un appareil qui détermine plus ou moins 50 maladies.
68 maladies. Alors, maintenant, les compléments alimentaires ne sont que des compléments alimentaires. Lorsque vous êtes malade, allez consulter un centre de santé, allez consulter une polyclinique, un hôpital. On va donner un diagnostic et on va vous prendre en charge correctement. Alors, maintenant, les actions du ministre de la Santé vont se poursuivre, mais ces actions doivent être relayées à tous les niveaux du secteur sanitaire. Voilà pourquoi son excellence, monsieur le ministre de la Santé, a pris une note circulaire invitant les ministres provinciaux à la charge de la santé, les chefs des divisions ainsi que les médecins secteurs provinciaux, chacun en ce qui le concerne pour l'application stricte et d'emploi des mesures sur le terrain. Merci Pierrot.
Merci beaucoup docteur Félix Momad. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le conseiller principal du ministre de la Santé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été nombreux à vouloir intervenir. On n'a pas eu le temps de vous faire intervenir tous, mais nous vous disons merci pour votre fidèle attention à Radio Capi. Merci à Gilles Lungembo qui a coordonné cette émission mise en onde par Sylvain Matondou, Julie Feza Bongonda, la réalisée. Pierrot, il a même, je vous la présenter sous la supervision de Léonard Moulamba. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs à 20h, soit de 8h de Kinshasa en rediffusion, mais aussi sur www.radiocapi.net. Pour le moment, il me reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie des Radio Capi. Au revoir.